Dougou, 21h à Mopti et à Bamako, 21h à Conakry. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus. Après le bulletin d'information, nous ouvrirons l'émission avec le Burkina Faso, où la population a ras-le-bol des délestages. Nous évoquerons également la demande d'exhumation du corps de Thomas Sankara, alors que la justice s'est déclarée incompétente. Nous serons au Mali pour notre dossier.
Moi, j'avais fermé 9 mois. On vient d'ouvrir. On essaie de reprendre un peu nos activités. Ici, dans la restauration, pour le moment, il n'y a pas de touristes, mais on se débrouille avec les quelques nationaux et quelques coopérants. Donc, ça n'a pas totalement démarré, mais bon, on essaie de faire ce qu'on peut.
Et nous serons plus précisément à Mopti, où la vie culturelle et nocturne reprend peu à peu ses droits. Reportage de notre correspondant Mamoudou Bokoum. Enfin, en ce jour de fête du travail, nous serons en Guinée où les syndicats brandissent la menace d'une nouvelle grève générale. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, au micro Timothée Donangmaï pour ce bulletin d'information. John Kerry, en tournée en Afrique, a appelé à la fin des combats et à une aide humanitaire au Soudan du Sud. Le chef de la diplomatie américaine est arrivé hier soir à Addis Abeba, où il a déclaré que trop de pays africains courent le risque de connaître une violence généralisée. Les États-Unis soutiennent les efforts menés par les Africains contre les conflits du continent, a-t-il souligné. Un journaliste centrafricain a été tué et un autre grièvement blessé dans des attaques séparées à Bangui dans la nuit de mardi à mercredi. Désiré Sayenga du journal Le Démocrate a succombé à l'hôpital des suites de ses blessures. La mort du confrère a suscité une vive émotion à Bangui. Salif Sadio appelle au cessez-le-feu en Casamance. Après 32 ans d'un conflit larvé dans la région méridionale du Sénégal, le chef militaire historique du MFDC demande un arrêt des combats. Le mouvement des forces démocratiques de Casamance discute depuis des mois à Rome avec le gouvernement sénégalais. Au Nigeria, les familles des jeunes filles enlevées le mois dernier continuent de manifester. Aujourd'hui, les proches des victimes étaient réunis dans l'école de Chibok où les adolescentes ont été kidnappées. Ils dénoncent le manque d'action des autorités et des forces de sécurité. Cela fait plus de 2 semaines que les écolières ont été capturées par des hommes armés alors qu'elles se trouvaient dans leur dortoir. Plusieurs dizaines de jeunes filles ont pu s'échapper, mais au moins 180 sont toujours portées disparues. On soupçonne les islamistes de Boko Haram d'être derrière ces raptes. Nouvel afflux de migrants vers Melilla. Ils étaient des centaines à se ruer aujourd'hui sur la barrière séparant le Maroc de l'enclave espagnole. Bon nombre d'entre eux sont d'origine subsaharienne. Ceux qui n'ont pas réussi à entrer sur le territoire espagnol ont été arrêtés par la police marocaine. 6 migrants et 3 policiers auraient été blessés, selon l'AFP. Les organisations des droits de l'homme dénoncent régulièrement les violences faites à ces migrants.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a appelé à des négociations entre Kiev et les séparatistes pro-russes dans le sud de l'Ukraine. La Russie estime que ce dialogue entre les autorités ukrainiennes et leurs adversaires pourrait être lancé dans le cadre de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE. Des activistes de l'opposition syrienne disent qu'un raid aérien gouvernemental contre un marché dans un secteur sous contrôle rebelle de la ville d'Alep a fait au moins 33 morts. Hier, une attaque contre une école de cette même ville avait fait 18 morts. Un attentat suicide dans le nord-est de l'Afghanistan a fait au moins 13 morts, dont 6 policiers et une vingtaine de blessés. Dans un entretien avec le service afghan de la Voix de l'Amérique, le gouverneur de la province du Panjshir, Abdurrahman Karimi, a dit que l'attentat à la voiture piégée a été perpétré par 4 assaillants qui ont également trouvé la mort. Et puis en Irak, le dépouillement se poursuit après les premières législatives depuis le départ des troupes américaines en 2011. Plus de 20 millions d'Irakiens étaient éligibles pour prendre part au scrutin d'hier où ils devaient choisir les 328 membres du Parlement. En dépit d'une forte présence policière et l'interdiction de la circulation automobile dans Bagdad, des actes de violence ont fait au moins 12 morts à travers le pays. Le président Xi Jinping a promis une action décisive suite à l'attaque à la bombe et au couteau qui a fait 3 morts et 79 blessés hier dans l'ouest de la Chine. Cela s'est passé dans une gare ferroviaire de la province de Jingxiang. Selon le journal officiel Le Quotidien du Peuple, 2 des 3 morts sont des assaillants. L'agence Chine Nouvelle les identifie comme des extrémistes religieux, mais on ignore pour l'instant s'il s'agissait d'une attaque suicide.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus et nous ouvrons donc l'émission par le Burkina Faso. À Ouagadougou, la population est de plus en plus irritée par les délestages quotidiens qui peuvent durer plus de 6 heures. Suite à un sit-in organisé devant ses locaux, la SONABEL, la Société Nationale d'Électricité, a accepté de supprimer certaines pénalités imposées à ses abonnés. Une mesure bien accueillie par les protestataires, mais qui ne les satisfait pas complètement. Les organisateurs de ce sit-in avaient formulé 7 revendications. La réaction de Marcel Tamkoano, président du M21, une organisation de la société civile qui a pris part aux protestations.
Il faut dire que la SONABEL a réagi et même si cela ne suffit pas, parce que la SONABEL à l'heure actuelle a levé ce qu'on appelle les pénalités et les redevances. Les pénalités, ça dit tout simplement ceux qui viennent payer le courant en retard. Donc, il y a une petite somme qui retient, il faudra que 2000 à 2500, ce qui peut même arranger la population et si la SONABEL pouvait définitivement supprimer les pénalités et les redevances. Parce que nous estimons que ça ne sert à rien de prendre des pénalités ou bien des redevances alors que la population elle-même a de l'électricité plus de 30 jours.
Les 7 revendications n'ont pas toutes été satisfaites. Est-ce qu'il va y avoir d'autres mouvements, d'autres manifestations dans les jours qui viennent?
Oui, dans les jours qui viennent, si les coupures et les détails continuent, c'est sûr qu'il y aura d'autres mouvements qui partiront vraiment pour exprimer leur ras-le-bol par rapport à ces coupures de courant.
Marcel Tamkoano, président de l'organisation de la société civile M21, au micro de Chérubin Dorsil. Burkina toujours, la justice s'est déclarée incompétente sur la demande d'exhumation du corps de Thomas Sankara. Une demande faite en 2010 par la famille du défunt dirigeant burkinabé. Le capitaine Sankara, qui avait pris le pouvoir en 1983 à la suite d'un coup d'État, a été tué en 1987 lors d'un nouveau coup d'État ayant porté au pouvoir l'actuel président Blaise Compaoré. Timothée Donangmaï a recueilli la réaction de maître Benewende Sankara, avocat de la famille Sankara.
Rappelez-vous que toutes les juridictions s'étaient déclarées incompétentes et ça a obligé la famille du président Sankara à se retourner vers le comité des droits de l'homme de l'ONU qui avait rendu une décision qui condamne le Burkina Faso pour avoir violé le pacte relatif aux droits civils et politiques. C'est fort de cela que la famille a estimé qu'il est de son droit, garanti par la Constitution et l'ensemble des traités, de demander une expertise de la tombe. Une décision d'incompétence à nouveau, et nous c'est ahurissant, c'est une décision très critiquable et c'est une décision qui du même coup dénote que notre justice est une justice pratiquement sous soumission. Autrement dit, les dispositions qui ont été lues par le tribunal ne peuvent pas nous convaincre, ce qui va certainement amener le combat plus loin devant la cour d'appel. Mais en attendant, vous aurez aussi remarqué que le peuple burkinabé suit de près ce dossier. Et le tribunal était bondé de monde ce matin-là pour crier surtout son ras-le-bol parce qu'en 4 années, pour rendre une décision d'incompétence, cela dénote que c'était vraiment du ridicule et qu'il n'y avait pas de la sérénité dans la décision.
En 2006, le Comité des droits de l'homme de l'ONU avait demandé à l'État burkinabé de faire la lumière sur la mort de Thomas Sankara. Où en est cette initiative onusienne?
Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est suite à cette décision que la famille Sankara a pris des mesures conservatoires en faisant des tests d'ADN sur les enfants. Et comme on nous a indiqué une tombe supposée être celle du président Sankara, il était tout à fait normal que la famille entreprenne ses démarches. Mais l'État du Burkina Faso, à ce jour, n'a absolument rien fait pour qu'il y ait une enquête sérieuse dans le dossier du président Sankara. À ce jour, les pendules sont à zéro et on est sur place avec une très mauvaise volonté du côté des autorités du Burkina Faso, parce que au moment où nous vous parlons, il me semble même que pour voir la tombe du président Sankara, c'est la croix et la bannière, parce qu'il y a de la police qui joue à l'intimidation.
Maître Benewende Sankara, avocat de la famille Sankara. Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique, 102.4 FM, notre fréquence à Ouagadougou. Notre dossier est consacré aujourd'hui à la reprise des manifestations culturelles et des activités nocturnes à Mopti au Mali. La vie culturelle avait particulièrement souffert lors de l'occupation du pays par les djihadistes et aujourd'hui, les établissements culturels réouvrent peu à peu leurs portes. Reportage à Mopti de notre correspondant Mamoudou Bokoum.
Après la pluie, c'est le beau temps, l'on a coutume de dire. Cette assertion sied bien avec la situation actuelle des espaces culturels et restaurants de Mopti. Ces établissements avaient fermé porte suite à la crise politico-sécuritaire que le Mali a traversée. Mais aujourd'hui, on constate ça et là une reprise, même si elle n'est pas totale. Thiebogo Sibi, promoteur du Fiesta Club.
Ici chez nous, en Fiesta, aujourd'hui, la reprise commence, mais timidement. Et il y a quand même une reprise. Même si elle est timide, tous les week-ends nous avons l'orchestre Kanaga qui joue chez nous. On a assez de diversité par rapport aux clients pour les satisfaire. À l'arrivée des fonctionnaires de l'humanitaire, du personnel de l'AMUNUSMA et autres, des militaires étrangers, c'est vraiment l'endroit qu'ils ont adopté. C'est d'ailleurs à l'arrivée de ces étrangers que la reprise a été effective et donc la population a suivi, de sorte que maintenant ça commence un peu aller.
Au Madison Club aussi, une boîte de nuit. De la place, les activités ont repris.
Tous les vendredis, la grande soirée sénégalaise au Madison Club. Une première sur la Venise. La grande soirée sénégalaise, c'est au Madison Club.
Nous avons fait un tour à l'espace Facebook, c'est le même constat. C'est le show aussi du côté des Balani Show, un concept de récréation prisé par la jeunesse mopticienne, un concept qui avait été également stoppé par la crise. Au Mankante, un espace culturel converti en restaurant, les clients ont commencé à signer leur retour. David Tembine est le promoteur du restaurant.
Moi, j'avais fermé 9 mois. On vient d'ouvrir. On essaie de reprendre un peu nos activités. Ici, dans la restauration, pour le moment, il n'y a pas de touristes, mais on se débrouille avec les quelques nationaux qui viennent manger ici en couple, et quelques coopérants qui sont ici, et quelques membres de MINUSMA et tout ça. On tourne avec. Donc, ça n'a pas totalement démarré, mais bon, on essaye de faire ce qu'on peut pour que ça aille avec quelques séminaires qui se passent. Bon, on s'en sort un peu.
Les coins ont repris service, mais les promoteurs veulent plus de quiétude pour la bonne marche de leurs activités. Thiebogo Sibi, promoteur du Fiesta Club.
On a espoir que les choses sont en train de reprendre, mais on veut encore plus d'assurance parce que, comme vous le savez, jusqu'à présent, la situation à Kidal est encore un peu dans un truc de stand-by flou façon. Sinon, dans la région de Mopti et le reste du Mali, ça commence à aller. On est vraiment prêt à mettre le paquet.
Avec la reprise des activités, la vie est moins dure que par le passé, nous dit David Tembine du restaurant Mankante.
Bon, le temps de la crise, il n'y avait pas de retombées. On souffrait seulement. On vivait nos économies des années passées. Bon, actuellement, on essaye quand même de vivre sans tirer sur nos réserves. On essaie de combler, tu vois, les charges fixes avec les recettes ça marche un peu.
Si les restaurateurs ne se plaignent pas trop chez les acteurs culturels, c'est le remboursement de créances qui est à l'ordre du jour. Tiemogo Sibi du Fiesta Club.
La rentabilité, c'est assez problématique parce que tout l'argent qu'on est en train de gagner aujourd'hui, cet argent est en train de nous permettre de payer le tas de crédits qu'on a amassé depuis le temps de la crise. Donc, des factures d'électricité et d'eau qui se sont accumulées. On s'attelle aujourd'hui avec l'argent qu'on est en train de gagner aujourd'hui, de payer nos créanciers et des amis qui nous ont passé un peu de près de gauche à droite. Donc cet argent-là, honnêtement, on ne voit même pas la couleur de cet argent-là aujourd'hui. Tout ce qu'on gagne aujourd'hui, donc tout ça est en train de nous permettre de rembourser un peu nos crédits.
Qu'il ait bénéfice ou pas, les mélomanes de la Venise ont quand même renoué avec leurs vieilles habitudes, celle de se distraire la nuit, ne serait-ce qu'une seule fois par semaine. Mamoudou Bokouma Mopti pour La Voix de l'Amérique.
Mopti, vous nous écoutez sur le 92.2 FM, sur la radio Sagan. Aujourd'hui, 1er mai, fête du travail, les syndicats et organisations de défense des travailleurs manifestent un peu partout. En Guinée aussi, la principale organisation syndicale menace de déclencher une grève illimitée à partir du 13 mai prochain. Les leaders syndicaux demandent le respect de l'accord tripartite signé il y a 2 ans avec le gouvernement. Les explications de notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Au mois de décembre 2012, le gouvernement guinéen, le patronat et les syndicats signent un accord dans lequel le salaire des fonctionnaires guinéens doit connaître une augmentation progressive de 50%. Mais si le SMIG, salaire minimum interprofessionnel fixé à 440 000 francs guinéens, est une réalité, le statut particulier des enseignants et des médecins constitue aujourd'hui des exigences du mouvement syndical guinéen. Selon Amadou Diallo, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, si rien n'est fait avant le 13 mai, une grève générale illimitée sera déclenchée.
Actuellement, on parle de la santé, n'est-ce pas, et des enseignants. Donc c'est ce qui actuellement va être fait dans le meilleur délai. Si nos revendications sont satisfaites, on peut suspendre. Mais si elles ne sont pas satisfaites, on ira les faire en grève. Et ça, c'est clair.
C'est une négociation, a dit le ministre de l'Emploi et porte-parole du gouvernement. Albert Damantan Camara a voulu rassurer les syndicalistes de la volonté du gouvernement d'accorder une attention à leurs revendications.
L'aspect le plus urgent ces jours-ci, c'était les revendications liées au secteur de l'éducation et de la santé. Et donc, nous sommes venus voir ensemble ce qu'il était possible de faire pour désamorcer cette crise naissante, leur dire que nous restons mobilisés pour satisfaire leurs obligations, présenter des excuses, parce que s'il y a faute, il faut bien qu'il y ait des excuses, mais également voir les solutions qu'on peut envisager ensemble pour régler un certain nombre de problèmes.
C'est un problème administratif, ajoute le ministre de l'Emploi. Il y a des points de consensus, les autres restent des sujets de négociation, les autres, dont la situation des enseignants et des médecins, conditions pour éviter une nouvelle grève syndicale en Guinée. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Joselle Morissin. À la console, Glenn Van Calio. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous restons en Guinée, puisque nous nous quittons en musique avec Sekouba Bambino et Sinon Tena. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur la Voix de l'Amérique, ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous. Tora sura baruma neta na sinola mama o sunotenate sinola sunotenala sukola falema diana mo sharing bifa teleba bondi diana mfendi ma kama soro diani mpe diani ka koro jongi oh sheri. Sherry, baby, fair mama.
do sola ijo
sola
te na sinola
sola
te na la natura sura baruma neta na sinola kelein